Bonsoir, entrons comme tous les soirs dans le temps du débat, tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, Italie et Europe, brouille ou réconciliation. Nous sommes en direct des rendez-vous de l'Histoire de Blois, comme de nombreuses émissions de France Culture, aujourd'hui, demain ainsi que dimanche. Les rendez-vous de cette année ont pour thème l'Italie à l'occasion du 500e anniversaire, entre autres de la mort de Léonard de Vinci. Nous avons choisi ce soir de débattre des rapports de l'Italie à l'Europe. De toutes les nations européennes, en effet, l'Italie a peut-être été historiquement la plus européenne d'entre elles. Or, ces derniers mois, les dirigeants italiens ont montré une hostilité toute particulière aux institutions de Bruxelles. Trois invités ce soir en direct de l'auditorium de la bibliothèque de l'abbé Grégoire à Blois et nous allons tenter de comprendre le sens de ces déclarations parfois contradictoires vis-à-vis de la politique européenne en compagnie de Giuliano D'Ampoli. Il dirige le think tank Volta à Milan. Il a été conseiller politique de Matteo Renzi. Il est l'auteur d'un livre qui s'intitule Les ingénieurs du chaos qui a quelque chose à voir avec notre sujet. Aliénor Ballanger est également avec nous. Elle est enseignante à Sciences Po Bordeaux, docteur en sciences politiques, chercheuse associée au Centre Émile Durkheim et avec nous également Elisa Marcobelli, post-doctorante à l'Université de Rouen, experte en histoire pour la Fondation Jean Jaurès et autrice d'une thèse à paraître bientôt sur les pacifismes socialistes français, allemands et italiens dirigée par Christophe Prochasson et Olivier Jans.
Nous stiamo lavorando per riportare al centro il lavoro, la famiglia.
Nous travaillons pour replacer au centre le travail, la famille, la sécurité.
Come priorità hanno la difesa della loro sicurezza.
500 millions de citoyens européens nous demandent la protection de leurs frontières, de leurs filles, de leur histoire, de leur culture et de leur identité. Il n'y a parmi nous pas de nostalgiques ou d'extrémistes. Nous regardons vers l'avenir. Les fossoyeurs du rêve européen sont les bureaucrates, les bien-pensants, les banquiers qui gouvernent l'Europe depuis trop longtemps.
Voilà, vous l'avez peut-être reconnu, c'est la voix de Matteo Salvini parlant d'Europe lorsqu'il était encore ministre de l'Intérieur. C'était en avril dernier. Bonsoir, Aliénor Ballanger.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Bonsoir à vous. Elisa Marcobelli.
Bonsoir.
Et bonsoir à vous, Giuliano D'Ampoli.
Bonsoir.
Alors, cette voix, vous la connaissez bien puisque vous avez participé à la politique italienne depuis un certain temps maintenant, Giuliano D'Ampoli. Qu'est-ce qui explique cette vindicte anti-européenne avec ses fonctionnaires de Bruxelles qui serait une sorte de épouvantail pour Matteo Salvini et puis cette idée aussi du travail, de la famille et de la sécurité à défendre dans l'Italie contemporaine telle qu'elle était donc promue par Matteo Salvini quand il était encore ministre de l'Intérieur jusqu'à quelques semaines.
Bah, c'est des arguments que vous connaissez bien en France aussi, un peu partout.
Parce Merci que, de nous renvoyer la balle.
Mais non, mais simplement parce que la particularité, on l'a vu aussi au cours des dernières élections européennes, et c'est un vrai paradoxe, c'est que les seules forces qui font véritablement une campagne commune avec les mêmes arguments et la même rhétorique, c'est les forces souverainistes anti-européennes. Hein. C'est eux, et d'ailleurs, ils ont fait aussi un grand meeting, le seul vrai événement européen, meeting politique qui s'est tenu pendant la campagne, c'était à Milan, à la place du Duomo, avec Marine Le Pen, et évidemment Salvini, qui était l'hôte de la manifestation, et les autres leaders souverainistes européens. Donc, c'est une rhétorique qui marche très fort, et c'est vrai, comme vous le dites, que c'est quand même un peu surprenant de la voir prendre pied de façon aussi ferme dans un pays comme l'Italie qui était traditionnellement peut-être le pays le plus sincèrement pro-européen, parce qu'il n'a jamais véritablement vécu l'Europe comme une projection de sa puissance.
Vous voulez dire
que
la France
arrivait quelquefois à d'autres pays, il a toujours vécu d'un côté un peu comme une fuite par rapport aux gouvernants italiens ou à la corruption italienne. italienne, etc. Mais d'un autre côté aussi avec une adhésion quand même très sincère qui existait par rapport au projet européen et qui aujourd'hui, malheureusement, est beaucoup moins forte dans l'opinion publique.
Ce qui est très impressionnant, c'est que, bon, qu'on attende d'un leader de la Ligue, de la Ligue du Nord, une telle diatribe, on peut l'entendre. Que Matteo Renzi, que vous avez secondé en tant que conseiller politique, Giuliano D'Ampoli, et à un moment donné de son parcours politique, je crois que c'était en 2016, commençait à tenir un peu des propos qui n'étaient pas semblables, évidemment pas aussi virulents, mais tout de même virulents vis-à-vis de l'Europe, de bureaucrates, qu'il ait choisi par exemple d'enlever le drapeau européen de son bureau, par exemple, quand il était filmé. Ça peut paraître un peu étonnant. Qu'est-ce qui fait que même des forces qui sont des forces pro-européennes, traditionnellement pro-européennes, ont pu épouser un temps peut-être ce discours anti-européen ?
Il faut bien comprendre que le moteur politique principal en Italie depuis un quart de siècle, c'est la colère, la rage contre l'establishment,
et donc en Manipulite, partie depuis
Manipulite, etc. Et puis quand même 20 ans de crise économique. Et donc même un leader progressiste comme Matteo Renzi, d'une certaine façon, il a fait une tentative assez intéressante à mon avis, mais je ne suis évidemment pas objectif, et qui a finalement échoué, mais il a fait une tentation de récupérer quand même une partie de cette énergie, de cette colère, de cette rage qui traverse l'électorat italien, mais pour la porter quand même dans une direction de réforme et de politique qui était tout à fait résolument pro-européenne, dans un cadre européen quand même. Même Macron, qui pourtant est quand même un peu le porte-drapeau du projet européen au niveau de l'Union, même lui, il de temps en temps, il fait quand même des polémiques par rapport à un certain type de bureaucratie, d'absence de vision et d'absence de courage politique.
Vous avez un peu plus de chance d'ailleurs qu'Emmanuel Macron de votre côté en Italie, puisque vous avez réussi à avoir un conseiller du Conseil européen qui s'appelle Paolo Gentiloni, qui est un ancien Premier ministre italien, alors que nous, on a échoué à y mettre Sylvie Goulard dans ce Conseil européen. Sur ce point, Aliénor Ballanger, cette longue histoire du rapport de l'Italie à l'Europe, et en particulier après la Seconde Guerre mondiale, vous avez travaillé sur ces questions-là, puisque en tant qu'experte en sciences politiques, vous travaillez sur l'intégration européenne, en vous posant la question de est-ce que c'est une intégration par le peuple ou une intégration pour le peuple. Et à l'intérieur de cette réflexion, eh bien, les Italiens tiennent une part importante.
Oui, même déjà avant la Seconde Guerre mondiale, et notamment pendant les années de résistance à la fois au fascisme.
Pendant le ventennio fasciste.
Exactement. Et ensuite, pendant les années de résistance au sein de la Seconde Guerre mondiale à proprement parler, parce qu'il y a un certain nombre de circulations qui se font entre les acteurs. Il y a beaucoup d'Italiens qui émigrent, notamment en France et en Suisse, et par ce réseau un peu souterrain de la résistance, circulent et se développent des idées pro-intégration européenne, et pour reprendre votre allusion à mon travail de recherche, et notamment qui essaie de repenser ce que serait une intégration européenne par le peuple, en l'occurrence. Et c'est ça que Bertrand Vessière va considérer l'Italie comme le laboratoire du fédéralisme européen, dans le sens où, justement, le fédéralisme a beaucoup été pensé jusque-là dans une intégration plutôt pour le peuple et par les élites, alors à la fois des élites déjà intégrées à un niveau supranational quasiment, par leur biographie, par leur carrière personnelle, ce qu'on voit beaucoup dans les études de prosopographie.
Et la prosopographie, aussi, c'est donc en suivant la vie des acteurs, en l'occurrence, sur toute leur vie politique en particulier.
Voilà. Et également d'un point de vue évidemment diplomatique, c'est-à-dire que jusqu'à présent, l'Union européenne s'était vue comme, avec cette formule célèbre que vous connaissez tous, qu'on attribue notamment à Victor Hugo, avec cette idée des États-Unis d'Europe. Mais cette idée des États-Unis d'Europe, c'était surtout une intégration diplomatique qui avait vocation à unir des gouvernements, peut-être moins des peuples et des citoyens qui seraient appelés à devenir un jour citoyens d'Europe, citoyens en Europe, citoyens européens. Et justement, ce que des militants comme Spinelli, notamment, comme Altiero Spinelli, vont essayer de mettre en place, c'est une intégration par le bas, par les citoyens, et notamment par le biais de cette résistance transnationalisée, en fait.
Il faut nous présenter Altiero Spinelli, parce qu'il est en rapport avec ce qui vient d'être dit par votre voisin de droite, à savoir Giuliano D'Ampoli, puisque Matteo Renzi, en 2016, s'est rendu sur l'île de Ventotene, où est enterré Altiero Spinelli, pour pouvoir justement dire qu'il faut une Europe, avec d'ailleurs François Hollande, je crois, qui s'était rendu
et Angela Merkel,
pour... sur la tombe d'Altiero Spinelli, dire qu'il fallait une Europe plus fédérale, plus ouverte, etc., etc. Qui est cet Altiero Spinelli qui joue un rôle très important, justement, dans ce regard porté par les Italiens sur intégration européenne et en particulier fédéralisme européen?
Oui, alors Altiero Spinelli est considéré comme l'un des pères de la construction européenne, et notamment l'un des pères de la construction démocratique de l'intégration européenne, et notamment un bâtiment au Parlement européen qui s'appelle le bâtiment Altiero Spinelli, pour rappeler justement le rôle qu'il a eu au niveau de la représentation des peuples. Altiero Spinelli, il est né au début du XXe siècle, et en fait il a un profil assez original, puisqu'il a commencé sa carrière en étant un militant communiste. Puis il a écrit un certain nombre d'articles qui ont déplu au régime fasciste, et notamment à la fin des années 20. Il se fait expulser et exiler donc en confinato. Il se retrouve sur l'île de Ventotene.
Confinato, c'était ce mode
de... d'emprisonnement.
Oui, un emprisonnement du régime fasciste sur des îles en particulier.
Sur des îles en particulier, oui. Alors, il y a eu plusieurs endroits, mais évidemment, son confinement le plus connu, c'est celui sur l'île de Ventotene. Et c'est là qu'il écrira avec Eugenio Colorni et Ernesto Rossi le fameux manifeste de Ventotene, qui donne donc, qui est la première pierre à cette construction démocratique de l'Union européenne. Mais ça s'arrête pas là, parce que ça, on va dire que c'est sa carrière militante, qu'il met en place progressivement tout au long des années 40, 50, et notamment quand il sort de son exil, avec les réseaux de la résistance. Mais il a ensuite une carrière vraiment politique, à la fois à la Commission européenne, au début des années 70, entre 70 et 76, et ensuite, et c'est pour ça qu'il est encore plus connu, pour son arrivée au Parlement européen, notamment pour les premières élections du Parlement européen.
En 79,
sous l'étiquette, alors, avec les indépendants, mais rattaché au groupe communiste. Et donc, en fait, il y a un retour à ses premières années où il était militant communiste. Il se fait expulser du Parti communiste italien en 37, et quasiment 40 ans plus tard, il est élu sous la bannière communiste au Parlement européen.
Vous étiez auprès de Matteo Renzi, Giuliano D'Ampoli, quand il s'est rendu sur cette île de Ventotene, ou est-ce que vous avez suivi ce pèlerinage, pourrait-on dire, pro-européen sur la tombe d'Altiero Spinelli qu'il a pu faire en 2016
Non, je n'étais pas là ce jour-là, même s'il a essayé à un certain moment de m'envoyer là gérer le projet de l'ancienne prison de Ventotene, ce qui me terrifiait assez, parce que c'est un endroit, il faut imaginer quand même un rocher dans la mer avec très peu de liaison avec la terre, disons, pendant l'année.
Vous aviez peur d'y rester,
Oui, voilà, et en particulier durant l'hiver. C'est vrai que cette démarche-là, elle était très importante pour Renzi et pour son approche. C'est-à-dire, l'Europe qui s'est faite n'est évidemment pas l'Europe d'Altiero Spinelli, non? C'est un parcours complètement différent que l'Europe a suivi. C'est le parcours, disons, qu'on appelle fonctionnaliste, où on a décidé qu'on ferait l'Europe non pas avec des idéaux, la culture, etc., mais avec des intérêts mis en commun, non?
Et l'intégration par l'économie.
L'intégration est donc un réseau de plus en plus serré d'intérêts mis en commun qui aurait porté à un certain moment à une vraie solidarité européenne. Et c'est vrai que ça a très bien marché, ce projet, jusqu'à un certain moment. Seulement, on a toujours eu la perception, surtout à Bruxelles, que la culture et l'identité, c'était des problèmes, plutôt des problèmes et des risques pour l'Europe. Non, donc on a gardé, et d'ailleurs dans la dernière commission européenne de Ursula von der Leyen, vous savez qu'il y a eu une polémique parce que le portefeuille de la culture n'a même pas été formellement attribué et nommé. C'est le dernier, c'est la dernière des attributions de la commission européenne, la culture. Et il est vrai qu'aujourd'hui, dans une phase où la culture et l'identité reviennent en politique, mais ils reviennent du côté des souverainistes, des nationalistes, et de ce côté-là, on a bien vu le cas du Brexit, évidemment.
Et même du côté, d'ailleurs, de la Commission européenne, puisque vous savez, ce portefeuille du mode de vie européen qui a fait beaucoup parler de lui.
Voilà, exactement. Et là, l'Europe et les pro-européens se trouvent un peu désarmés face à ça. On a dit, dans le cas du vote du Brexit, c'était un sentiment qui, celui de la sortie, qui a affronté un raisonnement, celui de rester à l'intérieur. Et l'Europe, c'est beaucoup de raisonnement et très peu de sentiments, donc très peu d'identité, très peu de culture. Spinelli, c'était un peu une tentative, une sorte d'antidote par rapport à ça.
Elisa Marcobelli, vous n'êtes pas encore intervenue dans notre discussion. Je rappelle que vous êtes post-doctorante à l'Université de Rouen, historienne, experte historienne pour la Fondation Jean Jaurès, et que vous travaillez sur le tout début du XXe siècle, puisque vous travaillez sur les pacifismes socialistes allemands, français et italiens. Justement, dans la façon dont on parle des Italiens, on dit que ce sont presque les meilleurs Européens. C'est d'ailleurs ce qui vient d'être plus ou moins repris par Giuliano d'Ampoli. Est-ce que déjà, au début du XXe siècle, ces Italiens étaient considérés comme les meilleurs des Européens, ou est-ce qu'il a fallu tout le cours du XXe siècle pour qu'ils deviennent ces meilleurs Européens?
Alors, moi, je reviendrai même un peu avant le début du XXe siècle, en fait. Je reviendrai à Giuseppe Mattini et à sa Giovine Europa, qui est une association...
Mattini, donc, qui est un des grands-pères de la littérature italienne, en particulier.
De la patrie italienne,
on peut dire, au milieu du XIXe siècle. Hein.
Qui fonde, en fait, en Italie, en 1831, ce qui s'appelle la Giovine Italia, qui est une association politique insurrectionnelle qui veut transformer l'Italie en république démocratique unitaire. Il faut se rappeler que l'Italie, à ce moment, elle n'est pas encore...
Elle n'a pas son indépendance.
Elle n'est pas encore unie, en fait. Et sur ce modèle-là, ils fondent, 3 ans plus tard, en 1834, la Giovine Europa, qui parle pour la première fois, en fait. C'est un des premières tentatives conçu organiquement, d'écrire une organisation démocratique de caractère supranational.
Vous voulez dire que quand les Français revendiquent les États-Unis d'Europe au nom de Victor Hugo, les Italiens pourraient les revendiquer au nom de Giuseppe Mattini?
J'étais pas très d'accord quand vous avez dit ça tout à l'heure, effectivement.
Donc Mazzini avant Hugo.
Mazzini avant Hugo, et même Cattaneo en 1849, c'est quelqu'un, Cattaneo, il dit en 1889, on aura la vraie paix quand on aura les États-Unis d'Europe. Donc c'est quand même
1849, c'est ça?
1849.
Ah oui, donc
dans un livre qui s'appelle Sur l'insurrection des Milan, en 1848.
Donc ça veut dire que les Italiens sont déjà dans ce 19e siècle, ils pensent déjà à une construction européenne, même si ça n'est pas la construction qu'on a connue ensuite.
C'est pas la même construction qu'on connaît ensuite, mais l'idée en fait elle est là. Elle est reprise aussi dans les années 20 par Einaudi
Et vos socialistes pacifistes de la Première Guerre mondiale sur lesquels vous travaillez?
Alors,
ah oui, ils sont internationalistes.
Voilà,
c'est un peu différent.
C'est toute une autre question, parce qu'en fait, je me suis demandé aussi pour préparer cette émission si on pouvait parler d'européisme, internationalisme. Non, selon moi, c'est une autre chose. Mais quand même, il y a des tentatives, bien sûr, de collaboration entre les partis socialistes des différents pays qui se mettent en place à ce moment.
Alors, il est 18h39 sur France Culture. Vous écoutez Le Temps du Débat.
France Culture. Le Temps du Débat. Emmanuel Laurentin.
Un Un temps du débat en direct de l'auditorium de l'Abbé Grégoire à Blois, à l'occasion des rendez-vous de l'histoire de Blois. Vous savez qu'il y a de nombreuses émissions de France Culture qui s'y tiennent, et en particulier donc demain, eh bien nous aurons évidemment Jean-Noël Jeannet avec Concordance des temps, mais également d'autres émissions comme L'Esprit public. Ça sera dimanche, donc à 11h ici même à l'auditorium de l'Abbé Grégoire. Nous sommes avec trois invités, Giuliano da Empoli, mais également Aliénor Ballanger et Elisa Marcobelli. Si j'ai souhaité mettre ce cœur des esclaves, vous savez pourquoi, Elisa Marcobelli?
Parce que c'est un hymne de libération
nationale. Mais pas simplement, voilà, parce pas que simplement. Lorsque, pour le 150e anniversaire de la République italienne ou de la Fondation d'Italie, s'est mise en place justement une discussion entre la Lega et le président Napolitano à l'époque, chaque fois que le président Napolitano se rendait dans un endroit, il demandait à ce qu'on joue l'hymne italien, qui s'appelle Fratelli d'Italia, alors que la Lega prenait pour hymne le cœur des esclaves, considérant que le nord de l'Italie était esclave du reste de l'Italie. Ça veut dire, donc dire effectivement qu'il y avait... Cette... Ça vous fait rire, Giuliano da Empoli, mais c'est vrai, et c'est ce qu'il faisait. C'est oui. Très bizarre.
Mais c'était, disons, c'était le passé de Matteo Salvini, c'est-à-dire le leader de la Ligue du Nord contre le sud de l'Italie, alors que entre-temps, Matteo Salvini est devenu le leader d'un parti nationaliste et qui espère beaucoup récolter des voix dans le sud de l'Italie contre l'Europe.
C'est d'ailleurs une sorte de coup de génie politique, pourrait-on dire, tout de même, de sa part, de Matteo Salvini, Elisa Marcobelli, d'avoir réussi à transformer un parti qui était simplement d'une région d'Italie contre une autre région, contre les autres régions, en un parti national. C'est assez rare quand même de voir quelque chose de ce genre-là.
Oui, il faut aussi penser qu'il a changé le nom de la Ligue. On ne parle plus de Ligue du Nord en Italie maintenant.
On parle
de la Lega. Elle est devenue tout court la Lega. Et il a réussi dans ce but qu'il avait d'agrandir l'électorat, tout simplement. Il faut penser que les îles du sud de l'Italie et autour de la Sicile, elles votent pour la Lega. Et ça étonne si on pense aux origines
de ce mouvement politique.
Absolument.
Aliénor Ballanger, vous vouliez réagir?
Oui, par rapport à ce que disait Elisa sur Mazzini, ce qui est très intéressant, c'est que étrangement, quand on lit les écrits de Spinelli, par exemple, il fait très peu référence à Mazzini, et il écrit même, il y a même une formule assez surprenante où il dit que son fédéralisme à lui ne prendra pas modèle ou refuse même de prendre modèle sur la vision un peu qu'il considère idéalisée de Mazzini. Comme étant un peu un grand-père de l'Europe, mais que lui refuse ça. Et ce qui est intéressant, du coup, dans ce qu'on pourrait voir sur l'histoire du fédéralisme italien et de l'euro-fédéralisme italien, c'est qu'il se nourrit, en fait, de sources étrangères à l'Italie et de sources étrangères à la péninsule
alors,
italienne.
Elles viennent d'où, ces sources, alors?
Eh ben, notamment des sources britanniques sur le fédéralisme britannique.
Je ne serais pas allé chercher justement les Britanniques pour pouvoir sauver le fédéralisme italien, mais enfin l'euro-fédéralisme. Bon, ben allez-y.
En temps de Brexit, c'est
un peu bizarre, mais allez-y. Continuez.
C'est vraiment surprenant. Et bien sûr, beaucoup encore plus du modèle des États-Unis. Et donc là, c'est plus les États-Unis d'Europe au sens de cet idéal un petit peu qui vient du printemps des peuples, hein, de 1848. On est dans tout ce sillage. Là, quand il prend le modèle américain, c'est le modèle de Hamilton et de Madison, à savoir un fédéralisme qu'on va nommer institutionnel ou constitutionnel, et un fédéralisme qui est vraiment fondé sur un dialogue entre des institutions à partir d'une constitution qui va fonder un peuple constituant, des pouvoirs constitués, et que c'est ce fonctionnement à travers des institutions strictement politiques plutôt que culturelles ou idéalisées d'une vision un petit peu symbolique ou culturelle qui, pour lui, va donner lieu à une véritable Europe politique. Et donc, c'est intéressant de voir que celui qu'on voit comme étant l'incarnation du fédéralisme européen italien, en fait, s'alimente de sources extérieures à la péninsule italienne.
Oui, c'est tout à fait étonnant. Alors, on a beaucoup parlé de la brouille en commençant cette émission avec Matteo Salvini, en revenant plusieurs fois sur ce nom-là. Maintenant, il n'est plus aux affaires. Celui qui est aux affaires, c'est celui qui a réussi à l'évincer après avoir manqué d'être évincé par Matteo Salvini. Il s'appelle Giuseppe Conte. Il était en septembre, le 11 septembre exactement, à Bruxelles.
Il y a une prise de conscience que ceux qui ne participent pas seront affectés financièrement. Si nous sommes en Europe, tout le monde doit participer à cette répartition. On ne peut pas ignorer un mécanisme de solidarité sans en payer le prix. Ce déplacement signale une entente retrouvée entre l'Italie et l'Union. Mais il faudra aussi le soutien des autres capitales européennes pour trouver des solutions à long terme.
Voilà, Giuseppe Conte, le Premier ministre à Bruxelles au mois de septembre, juste après la formation de son nouveau gouvernement. Et il s'exprimait à propos, évidemment, on l'a compris, de la répartition des demandeurs d'asile en Europe. Il faut dire tout de même, Giuliano D'Ampoli, que cette question des migrants, de l'arrivée des migrants sur le sol italien a profondément bouleversé la politique italienne et que ça n'est pas pour rien non plus dans ses allers-retours par rapport aux autres pays européens, que l'arrivée massive de ces migrants, que ce soit à Lampedusa, en Sicile ou ailleurs, donc à Catane ou ailleurs, donc depuis l'autre côté de la Méditerranée.
Oui, c'est évidemment un facteur qui a énormément pesé, qui a pesé sur le sentiment italien d'être abandonné par l'Europe, parce que bon, après, sur la base du traité de Dublin, on a considéré que la responsabilité de ces centaines de milliers de personnes qui arrivaient n'était que de l'Italie, et donc je pense ça a été le moteur principal de l'incroyable ascension de Matteo Salvini, parce qu'il faut bien voir qu'il partait de 4%. Hein. Mm-hmm. La Ligue était à 4% il y a 6 ans et elle a remonté jusqu'à arriver cet été. Salvini était à 40% dans les sondages.
Oui, alors que le Parti démocrate qui était représenté à l'époque par Renzi, Matteo Renzi, était à 40% en 2014 et que maintenant, il représente quoi, 18% des voix, quelque chose comme ça.
Un peu plus, le Parti démocrate est à 22, mais oui, il y a évidemment là une chute et un transfert radical. La marche consulaire de Salvini, qui a été extraordinaire au cours de cette année et demie, où il était ministre de l'Intérieur, et il a véritablement réussi une opération qui avait été théorisée avant lui par Goebbels. Hein, je veux pas dire que c'est Goebbels, Salvini. Ouais. Mais c'est quoi? C'est transformer une institution publique en une machine de propagande. Hein, ça, c'était l'idée de Goebbels. Et même en disant, avec des fake news, des mauvaises informations, etc., parce que de toute façon, la crédibilité de l'institution va tout faire passer. Et c'est vrai que en étant ministre de l'Intérieur, et donc en s'occupant principalement de cette question des débarquements de navires en provenance des côtes de la Libye, qui d'ailleurs était un flux qui s'était énormément réduit. Mm-hmm. Donc c'était un problème qui ne se posait plus véritablement d'un point de vue numérique, mais en exploitant ces images-là et le blocus des ports, Salvini est passé, encore une fois, de 17% aux élections de 2018 à presque 40% dans les sondages de cet été. Maintenant, il est
difficile de parler de Salvini. Quand on veut ne plus parler de Salvini, on en parle encore d'une certaine façon.
Parler d'immigration, disons, la question, c'est vraiment lui qui a établi une véritable hégémonie culturelle sur le discours par rapport à l'immigration en Italie.
Vous voulez dire c'est du gramschisme d'extrême droite?
Oui, mais c'est encore un classique des mouvements de droite un peu dans toute l'Europe. Ils ont étudié Gramsci beaucoup mieux que les progressistes.
Et donc ils appliquent cette idée qu'il faut d'abord conquérir par la culture et par les idées avant de conquérir la dimension politique. Il y a tout de même quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que dans le coup, on pourrait presque dire, Alinor Ballanger, que l'Italie revient en Europe. Et d'ailleurs, c'est assez amusant d'entendre Donald Tusk à Biarritz, le président du Conseil européen, qualifié de Giuseppe Conte, il n'aurait peut-être pas dit ça 3 mois plus tôt, de meilleur exemple de loyauté en Europe. C'est-à-dire qu'on attend tout de même de cette Italie, peut-être par cette longue histoire que vous avez décrite tout à l'heure, on attend tout de même de cette Italie qu'elle soit le bon élève ou un des bons élèves ou le meilleur élève justement de la classe européenne vis-à-vis de cette, ce fédéralisme potentiel, de cette vision de l'Europe.
Oui, même si selon la bonne formule de Günther Oettinger, commissaire du budget, commissaire européen au budget, on attend surtout des Italiens qui votent bien ou mieux. C'est-à-dire que selon la formule controversée qui a été reprise maintes fois, mais que il a quand même été dit en mai dernier que les marchés vont peut-être apprendre aux Italiens à bien voter. Donc,
on avait connu ça déjà en 2005, au moment du traité européen. On avait demandé à ce que les gens votent mieux, d'ailleurs, parce qu'ils n'avaient pas voté bien, en particulier en France.
Voilà, et là, ça reprend quasiment l'idée de Leopardi qui disait que la populace italienne était la populace la plus cynique d'Europe, quoi. Et on a quasiment cette idée que, alors peut-être que les dirigeants vont revenir dans le giron et du fédéralisme européen, mais que le peuple italien, lui, serait parti du côté d'un populisme ou d'une peuplocratie, pour reprendre l'expression de Marc Lazare, qui ne serait plus en phase avec les idéaux fédéralistes et européens. Donc c'est là que c'est un petit peu ambigu cette vision d'un retour de l'Italie dans l'Europe.
Elisa Marcobelli, pourtant, pendant que la France votait non en 2005, l'Italie avait voté oui au vote sur la Constitution européenne. Donc il y avait toujours en 2005, en tout cas, un souhait, un désir, une volonté de rejoindre cette Europe et de la faire encore plus intégrée qu'elle ne l'était à cette époque-là. C'est vraiment bizarre que ça ait bougé à ce point-là. Et peut-être que ça revienne dans l'autre sens très récemment avec Giuseppe Conte, le mouvement 5 étoiles et ceux qui le suivent.
Oui, je pense que c'est en relation à ce que Giuliano disait tout à l'heure, avec la propagande salvinienne, que ça a bousculé de cette manière. Il faut penser aussi qu'en 1989, il y a eu un référendum aussi européen en Italie. 80% d'Italiens ont voté, 88% d'Italiens ont voté pour. Donc l'Italie est en grande partie européenne. Et je ne peux pas faire de pronostic. En plus, je suis historienne, je ne devrais même pas dire ça. Mais je pense
on vous
que
le demande pas.
C'est probablement possible que ça bouscule encore une fois en direction pro-européenne, en fait.
Giuliano Lampoli, vous croyez justement que cette fièvre, parce que tout de même vous dites Matteo Salvini, et vous l'expliquez très bien dans Les Ingénieurs du Chaos, avec en particulier le mouvement 5 étoiles qui était son allié, qui s'est retourné contre lui très récemment avec Luigi De Maio, mais aussi Casaleggio, qui est le sorte de penseur de ce mouvement et qui est présent ici dans votre livre sur Les Ingénieurs du Chaos. Tout de même, c'est quand même bizarre. Est-ce que si on conquiert la culture, comme vous le disiez tout à l'heure, en passant par un gramschisme de droite, on ne peut pas l'éradiquer aussi facilement que cela en quelques mois par de bonne volonté, un peu plus de crédit européen, un peu plus de répartition des migrants à l'intérieur du pays et à l'intérieur de l'Europe, etc. etc.
C'est sûrement une bataille de longue haleine. Mais ce qui est vrai, vous parliez de Giuseppe Conte, c'est quand même une figure absolument extraordinaire, hein. C'est le jardinier de vous connaissez ce film avec Peter Sellers, où il y a un jardinier qui dit presque rien et donc tout le monde pense que c'est un génie. Bon, et lui c'est vraiment ça. Il était le premier ministre d'un gouvernement souverainiste qui a fait toutes les politiques de Salvini, et aujourd'hui il est le
meilleur élève en Europe.
Le meilleur élève de l'Europe, parce qu'il est un peu, disons, à la tête, même si ce n'est pas lui le chef politique, mais il représente le principal parti italien qui s'appelle le Mouvement 5 étoiles et qui n'est pas un parti, c'est un algorithme. Donc c'est un
algorithme, c'est ce voilà. Que vous expliquez là-dedans. Oui,
c'est un algorithme. Donc c'est un mouvement qui n'a pas véritablement de programme, mais qui peut s'adapter et se revirer, disons, de façon pratiquement instantanée par rapport aux préférences de ses électeurs et à l'ère du temps. Hein, et il le théorise d'ailleurs. Donc c'est un parti de forme nouvelle. Et c'est assez impressionnant à voir. Je pense qu'on verra plus de formations de ce type d'ailleurs un peu partout.
Parce que vous pensez que c'est assez proche de ce que peut faire Trump d'un côté, de ce que peut faire Bolsonaro d'un autre, etc. C'est-à-dire cet usage des algorithmes, cet usage du net pour pouvoir faire de la politique de façon différente de ce que faisaient les partis traditionnels et en particulier en Italie.
C'est l'importation en politique de la logique de Facebook et de Google, c'est-à-dire qu'est-ce qui intéresse ces plateformes, c'est pas de vous dire quelque chose en particulier, c'est de vous engager, de vous garder sur la plateforme. Mais alors ils vont dire à monsieur qui est intéressé à des poésies, à des poètes du début du XXe siècle, ils vont l'inonder de ça, et à madame qui est passionné de théorie des complots, ils vont l'inonder de ça. Et ils vont à chaque fois pouvoir intercepter, disons, la préférence sur la base des données qu'ils ont de chaque électeur de façon beaucoup plus individualisée par rapport au passé. Et puis ils vont pouvoir sommer tout ça et avoir un consensus très large.
Et vous voulez dire
que le mouvement 5 étoiles, c'est la première réalisation politique de ça. Mais c'est des techniques qui, aujourd'hui, sont utilisées, évidemment, par toutes ces figures que vous avez nommées.
Mais ils se sont alliés au Parti démocrate. Donc, ça veut dire.
Ils sont alliés avec n'importe qui. au contenu. Il suffit qu'il y ait de la. Il faut du ras-le-bol. Hein. Il faut des contenus qui soient, justement, engageants. Et donc, ça doit être, quand même, ça doit être fort comme contenu. Mais après, ça peut partir dans un sens comme dans
Elisa Marcobelli.
D'ailleurs, c'est là aussi une petite histoire en Italie qui remonte en arrière dans le temps avec un premier mouvement qu'on appelait populiste, qui est le front de l'homme quelconque, il front de l'uomo qualunque. Qui s'est organisé autour de 1944, autour de la personnalité de Guglielmo Giannini en Italie, qui était vraiment un parti avec des instances libérales conservatrices populistes et qui était antifasciste, mais était aussi contre les antifascistes. Et il était en polémique, en fait, avec tout le monde. Il était anticommuniste et lié à l'antipolitique, en fait. Et ce mouvement s'est basé sur ça. Donc, une petite histoire quand même aussi de cela en Italie.
Et donc, vous dites, vous, de votre côté, Giulia Donampoli, il s'allie maintenant avec le Parti démocrate, mais il pourrait peut-être se réallier avec Salvini s'il le faut. Parce que tout compte fait, ça n'est pas tellement important que d'avoir des alliés sur lesquels on puisse compter.
Ah, tout à fait. Ils peuvent aller dans une direction comme dans l'autre. Il y avait un parti à l'époque en Italie qui s'appelait la démocratie chrétienne, et c'était un parti très traditionnel, etc. Mais justement,
il était assez large pour pouvoir accueillir.
Les 5 étoiles, ça risque de devenir une sorte de démocratie chrétienne digitale. Hein? Et c'est assez particulier, mais vous savez, l'Italie, d'un point de vue politique, c'est toujours
un laboratoire. Assez,
c'est la Silicon Valley du populisme.
Oui. Merci donc d'avoir lancé cette idée de la Silicon Valley du communisme, du populisme, du populisme. Non, j'étais troublé par l'anticommunisme de tout à l'heure qui était évoqué par Elisa Marcobelli. Je rappelle que vous êtes auteur des Ingénieurs du Chaos. Je rappelle aussi que vous êtes présent dimanche dans ces rendez-vous de l'histoire pour dialoguer sur les réseaux sociaux et leur importance, en particulier.
Tout à fait. À 14h à la salle Kléber du Conseil départemental.
Avec Dominique Cardon, grand spécialiste. Et puis de votre côté, Aliénor Ballanger, vous êtes là aussi demain, c'est ça ?
Oui, demain, sur le site de la chocolaterie à 11h30 avec Alessandro Stella et Laura Audasso dans un atelier qui va reprendre un petit peu justement la question sur où va l'Italie contemporaine à travers une réflexion transdisciplinaire. Il y aura à la fois sociologue, politiste et historien.
Alors on sait demain de toute façon qu'à 10h ici, jusqu'à 11h, l'amphi sera entièrement plein puisque Jean-Noël Jeannet est là pour son concordance des temps. Si vous voulez venir, venez très tôt parce que ça va être plein, avec en particulier une vedette, c'est-à-dire Michel Pastoureau. Ils parleront du jaune et on parlera aussi dimanche ici, ça sera aussi très plein avec l'esprit public, donc avec Aurélie Filippetti, Jean-Noël Jeannet, Gérard Courtois et Brice Couturier. Et c'est Émilie Aubry, évidemment, qui anime l'esprit public entre 11h et midi, ici même également. Merci à tous les trois d'être venus pour parler justement de ces rapports à l'Europe de l'Italie. Merci. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Baye et Louise André. L'équipe technique était composée de Marcos Daras, de Fabien Gosset, de Mathieu Leroy, de Jean-François Georges et de Franck Malabry. À Paris, Pierrick Monsigny. La réalisation signée Thomas Duterre. Et il est temps de vous retrouver, Arnaud Laporte, dans 4 minutes. La dispute sera consacrée aux séries, c'est cela ?
Mais vous savez tout, Emmanuel. Qu'est-ce que je peux ajouter ?
Je vous l'ai déjà dit, mais je vous écoute. Je vous écoute, vous savez. Hein.
Mais je sais. Et moi, je vous écoute pour le sujet du temps du débat lundi.
Eh bien, le temps du débat, nous allons nous poser la question. Vous savez que Paris a été bloqué depuis une semaine par le groupe Extinction Rebellion. La lutte des places est-elle efficace ? C'est la question que nous poserons lundi.
Bien, nous serons à l'écoute et je vous serai dans le studio avec moi. Vous voudrez bien ce coup-ci ?
Je serai là ce
matin. C'est merveilleux. Série dans 3 minutes et tout de suite, on retrouve Mathieu Laurent pour les titres d'actualité France Culture. Il est 19h.